Littératureaudio.com vous présente Les Fables d'Ésope, tome 1. Lu par Bruissement, Choriste, Carole, Gilles-Claude, Jean-Luc, Latiti, Pomme et Stanley. Des colombes et du faucon, leur roi. Les colombes, se voyant hors d'état de résister aux attaques et aux insultes du Milan, qui leur faisait la guerre à toute outrance, résolurent de se mettre sous la protection du faucon et de l'élire pour leur souverain afin de l'engager dans leurs intérêts et de l'opposer au Milan. Mais elles se repentirent bientôt du choix qu'elles venaient de faire. Car ce nouveau roi les traitait comme un ennemi déclaré. Il les mettait en pièces et les dévorait sans qu'elles pussent se délivrer de ses violences. Alors les colombes, pleines de douleur et de désespoir, disaient qu'il leur eût été plus avantageux de souffrir la guerre et les fureurs du Milan que la tyrannie du faucon.
D'un chien et d'un voleur. Un voleur entra furtivement de nuit dans une maison pour la voler et offrit un pain au chien qui la gardait, voulant l'empêcher d'aboyer, en l'amusant à manger ce pain. Mais ce fidèle gardien la refusa et lui dit « Malheureux, je connais ton intention. Tu veux m'empêcher d'aboyer pour voler avec plus de liberté le bien de mon maître, mais je me garantirai de ta tromperie et je n'accepterai point tes présents. » Alors, le chien se mit à aboyer avec tant de violence que tous les domestiques de la maison se réveillèrent au bruit qu'il fit et donnèrent la chasse au voleur.
Du loup et de la truie. La truie, étant prête de mettre bas ses cochons, fut visitée par le loup, qui lui offrit de la servir et de la soulager dans le travail où elle était et d'avoir un soin tout particulier de sa portée. La truie, alarmée de la présence d'un ennemi si redoutable, lui répondit qu'elle le remerciait de ses offres, qu'elle n'avait nullement besoin de son ministère et que le plus grand service qu'il pouvait lui rendre était de s'éloigner d'elle le plus promptement qu'il pourrait et de la laisser en repos, elle et ses petits.
De l'accouchement d'une montagne. Il courut autrefois un bruit qu'une montagne devait enfanter. En effet, elle poussait des cris épouvantables qui semblaient menacer le monde de quelque grand prodige. Tout le peuple, étonné de ce bruit, se rendit en foule au pied de la montagne pour voir à quoi aboutirait tout ce fracas. On se préparait déjà à voir sortir un monstre horrible des entrailles de la montagne. Mais après avoir longtemps attendu, avec une grande impatience, on vit enfin sortir un rat de son sein. Ce spectacle excita la risée de tous les assistants.
D'un vieux chien et de son maître. Un chasseur, poursuivant un cerf, encourageait son chien à courir avec plus de vitesse. Mais ce chien, appesanti par la vieillesse, n'avait plus la même légèreté qu'il avait eue autrefois. Son maître, bien éloigné de le caresser, le chargeait de coups de bâton. Ce mauvais traitement obligea le chien à se plaindre de son maître et à lui remontrer qu'il lui avait toujours rendu tous les services qu'il avait pu durant ses jeunes années, et que s'il lui en rendait moins alors, ce n'était pas qu'il manquât d'affection pour lui, mais parce que la vieillesse l'en empêchait. Le chien lui représenta encore qu'il devait le traiter avec plus de douceur, afin qu'on crût dans le monde qu'il lui tenait compte de ses services passés, en un temps où il était hors d'état de le servir avec la même ardeur.
Le bruit des arbres battus d'un vent impétueux. Le bruit des arbres battus d'un vent impétueux épouvanta tellement les lièvres qu'ils se mirent tous à fuir avec vitesse sans savoir où ils allaient dans leur fuite. Ils trouvèrent un marais qui les empêcha de passer outre. Les grenouilles, saisies de crainte, s'y précipitèrent un continent pour se cacher. Au moment que la peur allait faire jeter les lièvres dans l'étang, l'un des plus vieux de la troupe les arrêta en leur représentant qu'ils avaient pris l'alarme mal à propos, à cause du bruit du vent et des feuilles. « Nous ne sommes pas les seuls qui craignons, » continua-t-il, « puisque nous avons fait peur aux grenouilles. »
D'un chevreau et d'un loup. Une chèvre sortit de son étable pour aller paître, recommandant très expressément à son chevreau de n'ouvrir la porte à personne durant son absence. À peine était-elle sortie qu'un loup vint heurter à la porte de l'étable, contrefaisant la voix de la chèvre, et il commanda au chevreau de lui ouvrir. Cet animal, profitant des leçons de sa mère, regarda par une ouverture et reconnut le loup. « Je n'ouvrirai point, » lui répliqua-t-il, « car quoi que tu contrefasses la voix d'une chèvre, je vois bien à ta figure que tu es un loup et que tu ne cherches qu'à me dévorer. »
Du chien et de la brebis. Le chien fit un jour assigner la brebis devant deux aigles pour la faire condamner à lui payer un pain qu'il disait lui avoir prêté. Elle nia la dette. On obligea le chien à présenter des témoins. Il suborna le loup qui déposa que la brebis devait le pain. Elle fut condamnée, sur ce faux témoignage, à payer ce qu'elle ne devait pas. Quelques jours après, elle vit des chiens qui étranglaient le loup. Cette vue la consola de l'injustice qu'on lui avait faite. « Voilà, s'écria-t-elle, la récompense que méritent de tels calomniateurs. »
du laboureur et du serpent. Un paysan se mit un jour en colère contre un serpent qu'il nourrissait, et prenant à la main un bâton, il se mit à le poursuivre. Le serpent, après avoir reçu quelques blessures, s'échappa. Depuis cette aventure, le laboureur tomba dans une extrême pauvreté et crut que les mauvais traitements qu'il avait faits au serpent étaient la cause de son malheur. Il alla le chercher en le priant de revenir dans sa maison. Le serpent s'en excusa, lui dit qu'il ne pouvait pas s'y résoudre, ne croyant pas pouvoir vivre en sûreté avec un homme si incommode. Quoique mes plaies soient guéries, ajouta-t-il, le souvenir de tes cruautés ne peut s'effacer de ma mémoire.
Du renard et de la cigogne. Un renard plein de finesse pria à souper une cigogne à qui il servit de la bouillie sur une assiette. La cigogne ne fit pas semblant de se fâcher du tour que le jouait le renard. Peu de temps après, elle le pria à dîner. Il y vint au jour marqué, ne se souvenant plus de sa supercherie et ne se doutant point de la vengeance que méditait la cigogne. Elle lui servit un hachis de viande qu'elle renferma dans une bouteille. Le renard n'y pouvant atteindre, et il avait la douleur de voir la cigogne manger toute seule, elle lui dit alors avec un rire moqueur, « Oh, tu ne peux pas te plaindre de mon raisonnement, puisque j'ai suivi ton exemple, et que je t'ai traité comme tu m'as traité. »
Du loup et de la tête. Un loup étant entré dans la boutique d'un sculpteur, il trouva une tête de relief fort bien travaillée. Il la tourna de tous côtés et la contempla à loisir, sans qu'elle proférât une parole. « Oh, la belle tête ! » s'écria-t-elle. « Que cet ouvrage est admirable ! C'est grand dommage qu'elle n'ait point de cervelle et qu'elle ne puisse donner aucun signe de vie. »
Du jet paré de plumes de paon. Un jet plein de vanité se para avec des plumes de paon qu'il avait ramassées. Cet ornement emprunté lui causa tant d'orgueil qu'il en conçut du mépris pour les autres jets. Il les quitta et se mêla fièrement parmi une troupe de paons qui, reconnaissant sa supercherie, le dépouillèrent sur le champ de ses plumes postiches. Cet animal, tout honteux après cette disgrâce, voulut retourner avec les jets. Mais ils le rebutèrent violemment et lui donnèrent tant de coups de bec qu'ils lui arrachèrent toutes ses plumes empruntées. De sorte qu'il se vit méprisé des autres oiseaux et même de ceux de son espèce.
De la mouche et du chariot. Une mouche s'étant arrêtée sur un chariot qui courait dans la lice où les chevaux et l'agitation des roues élevaient une grande poussière. Quelle nuée de poudre je fais élever ! S'écria-t-elle en s'applaudissant.
De la fourmi et de la mouche. La fourmi eut un jour querelle avec la mouche, qui se vantait de voler comme les oiseaux, d'habiter dans les palais des princes, de faire toujours grande chair, sans qu'il lui en coûtât aucune peine. Elle reprochait à la fourmi la bassesse de sa naissance, et qu'elle rampait toujours à terre pour chercher de quoi vivre avec beaucoup de travail et d'assiduité. Qu'elle était réduite à ronger quelques grains, à boire de l'eau, à habiter les cavernes. La fourmi répondait à tous ses reproches qu'elle était contente de son sort, qu'une demeure sûre et arrêtée lui plaisait mieux qu'une vie errante et vagabonde, que l'eau des fontaines et les grains de blé lui paraissait d'un goût exquis, parce que c'était des fruits de son travail. Au lieu que la mouche se rendait incommode à tout le monde et méprisable par sa fainéantise.
D'un singe et d'un renard. Dans une assemblée générale des animaux, le singe sauta avec tant de légèreté et tant d'adresse qu'ils l'élurent pour leur roi avec l'approbation de toute l'assemblée. Le renard, qui ne put regarder son élévation sans envie, ayant aperçu dans une fosse de la viande cachée sous des filets, mena le singe sur le bord de la fosse, lui disant qu'il avait rencontré un trésor et que c'était au roi à s'en saisir parce que la loi le lui attribuait. Le renard exhorta donc le singe à s'emparer promptement de ce trésor. Le singe, étant entré inconsidérément dans la fosse, fut attrapé au piège qu'il n'avait pas aperçu. Se voyant pris de la sorte, il reprocha au renard sa perfidie. « Monsieur le singe, lui répliqua le renard, puisque vous êtes si peu avisé, comment prétendez-vous avoir l'empire sur tous les autres animaux ?»
De la grenouille et du bœuf. La grenouille, ayant un jour aperçu un bœuf qui paissait dans une prairie, se flatta de pouvoir devenir aussi grosse que cet animal. Elle fit donc de grands efforts pour enfler les rides de son corps et demanda à ses compagnes si sa taille commençait à approcher de celle du bœuf. Elles lui répondirent que non. Elle fit donc de nouveaux efforts pour s'enfler toujours de plus en plus et demanda encore une autre fois aux grenouilles si elle égalait à peu près la grosseur du bœuf. Elles lui firent la même réponse que la première fois. La grenouille ne changea pas pour cela de dessein, mais la violence qu'elle se fit pour s'enfler fut si grande qu'elle en creva sur le champ.
Du cheval et du lion. Un vieux lion, ne pouvant plus chasser avec la même vitesse et le même succès, eut envie de manger un cheval qu'il trouva en son chemin. Il s'avisa de contrefaire le médecin et de lui demander des nouvelles de sa santé. Le cheval, qui comprit à peu près la mauvaise intention du lion, lui répondit qu'il ne se portait pas trop bien et que depuis peu il s'était mis une épine au pied dont il se sentait fort incommodé. Le lion s'offrit sur le champ à la lui tirer. Le cheval accepta l'offre il se mit en posture. Quand le lion se fut approché pour tirer l'épine, le cheval, allongeant le pied, frappa rudement le lion au milieu du front et se mit à fuir de toutes ses forces, laissant le lion dans un état pitoyable et désespéré d'avoir manqué son coup.
Le combat des oiseaux et des animaux terrestres. Les oiseaux et les animaux terrestres se déclarèrent la guerre pour la prééminence et pour défendre l'honneur de leur espèce. Pour décider leur grande querelle, ils se donnèrent bataille. La victoire balança longtemps sans se déclarer et sans prendre parti. La chauve-souris, qui se persuada que les oiseaux allaient être vaincus, se rangea du côté des animaux terrestres. Sa prévoyance fut trompée. Les oiseaux remportèrent une victoire complète sur leurs ennemis, contre l'attente de la chauve-souris qui fut chassée de la compagnie des oiseaux. Elle eut tant de honte et de douleur de son infortune que depuis ce jour-là, elle n'ose plus voler en plein jour. Elle ne se montre que la nuit.
De l'épervier et de la colombe. L'épervier, en poursuivant une colombe, tomba imprudemment dans les filets qu'un paysan avait tendus. Se voyant pris de la sorte, il employa toute son éloquence pour persuader au paysan de lui rendre la liberté. Entre les raisons qu'il lui allégua pour le toucher, il lui dit qu'il ne lui avait jamais fait de tort. « Cela peut être, » lui répliqua le paysan. Mais la colombe que tu poursuivais maintenant avec tant d'ardeur, dans l'intention de la dévorer, ne t'avait aussi jamais offensé.
D'un loup et d'un renard. Le loup avait ramassé dans sa tanière de grandes provisions pour y subsister assez longtemps sans être obligé d'en sortir. Le renard eut envie d'en avoir sa part. Il vint rendre visite au loup et lui demander des nouvelles de sa santé. Le loup, se défiant des finesses du renard et craignant qu'il ne voulût lui jouer quelque mauvais tour, feignit de se trouver mal, disant que son indisposition ne lui permettait pas de sortir de sa tanière et que c'était pour se remettre qu'il se tenait en repos. Il le pria d'aller demander au dieu le retour de sa santé. Le renard, mal satisfait de cette réponse et du procédé du loup qui rompait toutes ses mesures, alla trouver un berger, lui exposa l'état où le loup se trouvait et lui conseilla de venir promptement dans sa tanière où il lui serait fort aisé de le tuer parce qu'il ne se tenait pas sur ses gardes. Le berger, persuadé par le conseil du renard, vint attaquer le loup et le tua sans une grande résistance. Cette mort mit le renard en possession de la tanière et de toutes les provisions du loup. Mais il n'en jouit pas longtemps. Le chien du berger survint, qui prit le renard et l'étrangla sur le champ.